Aujourd'hui, c'est le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet.
Prêtre, écrivain, membre de l'Académie royale de Belgique, il a longtemps été professeur, vice-recteur à Lucé-Louvain. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il publie un nouveau livre intitulé « Des rites pour la vie » aux éditions Albin Michel. Livre dans lequel il nous décrit des rites et des célébrations. Il confie, raconte ce qu'il bouleverse au moment où il les célèbre. En tant que prêtre, il est appelé à proposer un chemin rituel dans des milieux très différents, puisqu'il célèbre aussi bien pour des personnes de tradition chrétienne que pour d'autres qui appartiennent à des univers humanistes et laïques. 6h, 10h.
Alors pourquoi les rites sont-ils si importants dans nos existences humaines, même en dehors d'un cadre religieux?
Mais c'est tout à fait fondamental, hein, parce que ce qui nous arrive dans la vie, de la naissance jusqu'à la mort, bien sûr, on peut le vivre avec son entourage, on peut le vivre dans l'affection, dans l'amitié, mais à un moment donné, on a besoin de ressaisir tout cela. Je vous donne un exemple tout à fait simple, hein, que je viens de vivre il y a 48 heures. On m'appelle à Liège pour une vieille dame qui a 98 ans. Je suis très très proche de sa famille et je me trouve là avec une de ses petites filles, cette vieille dame qui va mourir. Et elle le sait et elle en parle et elle le souhaite. Et à un moment donné, je prends une huile parfumée à laquelle je tiens beaucoup, beaucoup, qui vient de Bozé en Italie, d'un magnifique monastère, et je lui fais une onction d'huile dans le creux de la main. Vous auriez dû voir le sourire de cette dame, à quel point elle était sereine, joyeuse. Elle m'a dit « comme ça m'a fait du bien ». C'est un rite minimaliste, sur le pouce, mais c'est un rite, et je pense beaucoup à elle, puisqu'elle est décédée hier soir.
Gabriel Ringlet, est-ce qu'un rite, peut-on faire un rite laïque sans qu'on y perde une dimension spirituelle?
Absolument, moi je crois beaucoup à la spiritualité laïque. La spiritualité, ce n'est pas du tout réservé à la religion. Et la preuve, c'est que dans l'école des rites que nous avons fondée dans mon prieuré, nous sommes avec une équipe mixte. Donc on travaille avec des personnes qui viennent du monde humaniste et laïque, du monde chrétien, dans sa diversité, d'ailleurs catholique, protestant, orthodoxe. Et nous voyons que ce qui nous réunit, c'est bien ce spirituel qui est au-delà d'une expression particulière. Oui. Il y a en moi plus grand que moi. Ce plus grand que moi, certains l'appellent Dieu, d'autres ne l'appellent pas Dieu. Mais ce qui nous rejoint, c'est ce plus grand, et là nous avons beaucoup à nous apprendre les uns des autres. Par exemple, moi j'ai eu la chance, au moins depuis 20 ou 30 ans, de fréquenter de très très près la franc-maçonnerie, d'être souvent invité dans ce contexte-là, mais j'ai énormément appris pour ma propre pratique rituelle. Cela m'a beaucoup beaucoup encouragé. Donc vous voyez, il faut supprimer les frontières artificielles.
C'est peut-être juste une impression, mais vous allez peut-être pouvoir confirmer ce sentiment. J'ai l'impression que les rites, que les célébrations deviennent de plus en plus nombreux, comme si ça devient un peu un phénomène de société. Il y a une recherche de sens là-dedans.
C'est très très vrai, hein, et tout à fait paradoxal, puisque d'un côté, les institutions officielles se voient très très largement abandonnées, et n'ont plus que quelques pourcents parfois de pratiques, alors que je n'ai jamais vu autant de demandes rituelles qu'aujourd'hui. Alors il y a de tout, hein, sur le marché, vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de fantaisie, mais nous avons vraiment aujourd'hui une attente rituelle forte, solide, qui me semble-t-il est très très révélatrice d'une recherche de sens, mais qui ne s'exprime pas uniquement par le cerveau, qui est une recherche de sens très très concrète, par des gestes, par de la poésie, par des mouvements très 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 précis, et ça je trouve fort 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 encourageant.
Dans votre livre, vous nous confiez en fait beaucoup de récits, enfin beaucoup de rencontres que vous avez faites.
C'est très concret.
C'est très très concret. Évidemment, vous le dites, hein, il y a beaucoup de monde qui ne viennent pas ici chez vous pour avoir quelque chose dans la foi chrétienne, en tout cas.
Oui.
Est-ce que vous avez un exemple peut-être à nous donner de personnes qui arrivent, qui veulent un rite avec vous, mais alors on oublie complètement les traditionnels rites religieux?
Mais ça m'arrive tout le temps. Et par exemple, je le cite dans le livre à un moment donné, incidemment, je me trouve devant un jeune couple qui vient de perdre son petit bout à 18 mois. Hein. Vous imaginez le drame que cela représente. Alors le papa et la maman me disent, nous sommes tous les deux non-croyants, mais est-ce que vous voulez bien, avec nous, construire un rite, construire une célébration pour que nous parvenions à dire adieu à notre petit bout. Mais moi, ça m'a complètement bouleversé et nous avons vécu un très très grand moment. Et pourtant, c'est ça qui est extraordinaire et qui moi me touche beaucoup. Ces personnes se sont adressées à moi. Mmh. Elles viennent d'un univers qui n'a rien à voir avec le christianisme, mais sentaient qu'elles ne pouvaient pas continuer à vivre leur chemin sans qu'on ne marque cette étape autour de leur petit enfant.
Et pourquoi est-ce que ces personnes viennent vous chercher, vous, Gabrielle Ringlet? Pourquoi viennent-elles chercher le prêtre qui est en vous, alors qu'elles ne sont pas croyantes? Elles pourraient faire appel à un ami de la famille, un conciliateur, que sais-je?
Ça, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense que je suis très, très, très introduit dans des milieux extrêmement différents. Moi, je travaille beaucoup avec le monde laïque. Par exemple, dans notre école des rites, des gens qui appartiennent à un centre d'action laïque sont venus se former chez nous. Des francs-maçons s'expriment dans notre école des rites. Donc, il y a peut-être le fait que sur le terrain, tous les jours, de manière très, très concrète, je suis confronté à des gens de différentes origines. J'ajouterai quand même un élément, on y viendra peut-être, mais comme j'ai été amené à beaucoup célébrer dans un contexte d'euthanasie, je travaille aussi bien avec des équipes et avec des médecins appartenant à l'univers catholique qu'avec des médecins, notamment à l'université de Liège, appartenant à un univers laïque. Alors, si vous mettez tout cela ensemble, je balbutie un tout petit bout de réponse à votre question, mais je n'ai pas la réponse.
On a cette question qui nous parvient aussi de l'un de nos auditeurs. Pour vous, Gabrielle Ringlet, c'est élevé sur le WhatsApp de la première. Il dit, Monsieur Ringlet, je m'interroge sur le titre de votre nouveau livre. Comment des rites qui célèbrent des gestes qui consistent quelque part à provoquer volontairement la mort d'une personne, hein, vous parliez de l'euthanasie, c'est cet exemple qu'il cite aussi. Comment ces rites peuvent-ils être compris comme des rites pour la vie, qui est donc le titre de votre livre?
Oui, mais moi, le mot vie, je le prends dans un sens très fort, très large. D'ailleurs, avec mon éditeur, nous avons convenu qu'il y aurait un V majuscule. Mmh. La vie, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui est plus grand que nous. Que nous soyons au tout début de notre existence, que nous soyons tout à la fin de notre existence, il y a bien sûr la vie très concrète de tous les jours, on peut mettre un petit V, mais ce petit V, il est inclus dans un grand V, et je pense que la vie que l'on célèbre, c'est la vie jusqu'à la dernière seconde. Puisque je suis confronté tout le temps à la question de l'euthanasie, y compris sur le plan rituel, comment vous dire à quel point je me trouve non-stop devant des témoignages de vie, mais de vie très forte, hein, jusqu'à la dernière seconde. Donc la vie, elle est présente tout le temps, y compris là où, quand on regarde cela peut-être de plus loin, on croit que c'est tragique, mais il y a aussi de la joie, du bonheur, une véritable vie dynamique, même là où on ne l'attendait pas.
Comment est-ce que vous arrivez à trouver les mots justes quand on est dans des périodes comme ça, des moments de grande douleur? J'imagine qu'il y en a d'autres avec des moments de grande joie.
J'aime beaucoup votre question parce que le livre précisément, et c'est ce qu'a voulu à tout prix mon éditeur, hein, c'est que je raconte ce qui m'arrive à moi. Ce n'est pas simplement d'écrire des rites, mais toi, quand tu es là devant une maman toute jeune qui vient de mourir d'un cancer et que tu dois célébrer les funérailles et que tu es devant ces deux petits garçons, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis complètement retourné, je suis complètement saisi dans ma propre chair et pourtant, il faut que je trouve des mots, il faut que je trouve des gestes. Je ne peux pas craquer non plus. Je suis très fragile, mais je ne peux pas craquer dans ces circonstances-là. Ma seule réponse, c'est que la force me vient de ceux qui sont en train de traverser. Quand je me trouvais devant ces deux petits garçons de 9 et 11 ans et qu'avec eux, je prends une petite lumière que je vais déposer sur le cercueil de leur maman, à la fois c'est bouleversant pour eux, c'est bouleversant pour moi. Mais il me donne ces deux petits gosses une force incroyable. Et plus on travaille, moi j'ai été très longtemps aumônier d'hôpital, je travaille beaucoup en soins palliatifs aujourd'hui, plus on travaille avec des personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, plus on mesure à quel point on reçoit bien plus qu'on ne donne.
Est-ce qu'il y a un bon rituel, Gabriel Ringlet ?
Je pense qu'il y a un rituel qui doit être constamment repensé pour qu'il échappe au ritualisme. Et pour cela, il faut beaucoup de sobriété, il faut que les gestes sonnent justes, il faut beaucoup de poésie, pas de blabla, pas de doctrine, mais une poésie qui est à la portée de chacune et de chacun d'entre nous, hein, pas une poésie dans les nuages, mais un langage poétique, des gestes tout simples. Et alors, croyez-moi, le rite sera au rendez-vous, en sachant aussi que nous nous trouvons devant des personnes qui vivent des traversées qui sont très très graves très souvent, mais qui peuvent être aussi très amusantes et très joyeuses. J'en raconte dans le livre. Oui. Hein.
Gabriel Ringlet, encore quelques messages qui nous parviennent d'auditeurs. Décidément, vous avez beaucoup de succès sur notre WhatsApp. On a Hugues qui dit merci, Gabriel Ringlet, d'être le reflet d'une église ouverte, tolérante et accueillante. On a François qui dit Gabriel Ringlet devrait être nommé cardinal pour devenir pape. Et alors à ce propos, on a Bertrand qui nous demande, pensez-vous qu'un jour l'église catholique aura un pape de votre envergure, ouvert, progressiste et éveillé? On n'a pas parlé du pape ce matin avec vous.
Non, il est bien de temps en temps de ne pas parler du pape. Puisque la question est là, je suis bien obligé d'y répondre.
En quelques secondes, si vous le voulez
bien. Je serais tenté de dire qu'il est grand temps qu'on ne regarde pas l'Église à partir de sa hiérarchie, à partir du sommet, à partir de son organisation. L'Église à laquelle je suis confronté, celle que j'aime, c'est l'Église de tous les jours. Ce sont les hommes et les femmes d'aujourd'hui que je rencontre là où ils sont, jusque dans le plus petit village. On parle des questions d'euthanasie, ce ne sont pas des questions théoriques pour les universitaires. Moi, je me trouve dans un petit village d'Ardennes où les gens viennent de me poser des questions très concrètes. Donc, elle est là, mon église. J'ai beaucoup de respect pour la hiérarchie, je dialogue avec elle, mais je n'ai pas la moindre ambition de ce...
Merci beaucoup, Gabriel Ringlet. On rappelle votre livre, De rite pour la vie, qui paraît fin de ce mois d'août chez Albin Michel.